En 10 ans, les bouchons ont augmenté de 50% en France. En cette saison, ils peuvent durer jusque très tard dans la nuit.
Le temps perdu se mesure en kilomètres. Les kilomètres de bouchons qui paralysent la ville, matin et soir.
On considère qu'une heure passée dans les transports coûte 11 euros à la société.
Vous écoutez Radio Campus Montpellier, 102.2.
Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier. On vient d'écouter une émission intitulée Mektoub, donc pour un événement qui aura lieu le 22 novembre. Je pense que ça va être très sympa, en tout cas, moi j'ai bien aimé les musiques qui ont pu passer. Et maintenant c'est l'heure du Peak Time, on est ensemble pour une grosse demi-heure pour vous accompagner dans les bouchons, dans le tramway, peu importe où vous soyez en train de rentrer des cours ou peut-être en train de partir bosser. On va être ensemble voilà, pour une grosse demi-heure. On va discuter d'un sujet, alors pas hyper sexy, mais on va essayer de le rendre quand même intéressant. Et pour ça, évidemment, je suis pas tout seul. Déjà, il y a Clémentine à la régie qui nous fait un très très beau taf. Évidemment, sans la régie, on ferait pas grand chose comme d'hab. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, je suis pas tout seul non plus. Je suis accompagné de Antonin. Comment ça va ?
Hello, ça va bien, ça va bien. Très content d'être dans ce Peak Time un peu spécial du jeudi avec toi, Alex.
Bah ouais, ça fait plaisir en plus de pas faire le Peak Time tout seul.
C'est cool. Donc on est les deux en studio et on va vous proposer du très bon contenu, j'espère. Donc restez accrochés à la radio.
Yes, on va discuter un petit peu de la potentielle réouverture de l'exploitation minière en France. Et on va commencer tout de suite.
Radio Campus Montpellier, 102.2 FM, l'expérience sonore.
Alors concrètement, pourquoi ce sujet, d'où ça sort? En fait c'est Antonin du coup que tu as assisté à une conférence, mais je te laisse peut-être réexpliquer un petit peu le contexte.
Alors le contexte, oui, très important, donc le 25 septembre 2023, le président Emmanuel Macron s'exprime sur sa volonté de réaliser un grand inventaire des ressources minières en France. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ce grand inventaire ? Eh ben, pour répondre un peu à la question, je me suis rendu à la conférence sur les ressources minières et transition écologique qui se déroulait ce mardi 12 novembre à la Panacée. Dans le cadre de l'année des géodésiences, l'Observatoire de recherche montpelliérain de l'environnement, OREM, a organisé cette conférence. J'ai pu assister à la discussion de 5 chercheurs et chercheuses qui ont été invités pour réfléchir sur ce sujet, donc sur l'exploitation minière. Chercheurs et chercheuses qui sont tous et toutes issus du programme et équipement prioritaire de recherche qu'on appelle PEPR sur les sous-sols. Doté d'un budget d'aide de 70 millions d'euros afin de développer la connaissance des sous-sols nationales, selon le gouvernement qui finance entièrement ce programme, ce projet de recherche a pour but de réaliser l'inventaire des ressources qui se trouvent dans nos sous-sols. Ce programme est financé dans le cadre de la transition énergétique, puisqu'ici en 2030, le gouvernement français a des objectifs clairs, décarboner notre industrie afin de baisser de 35% entre 2015 et 2039 les émissions de gaz à effet de serre, ou encore de produire en France à l'horizon 2030 près de 2 millions de véhicules électriques. C'est pour cela que le gouvernement a besoin de savoir qu'est-ce qui se trouve dans nos sous-sols afin de savoir comment produire des voitures électriques, par exemple, qui permettraient au final de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc maintenant qu'on a compris pourquoi le gouvernement finance un inventaire des sous-sols français, on se demande...
Bah, du coup, en Occitanie concrètement, qu'est-ce que ça peut représenter en termes de ressources? De quoi on peut parler sur notre territoire?
Eh bien, c'est une très bonne question, Alex, puisque en Occitanie, on a un petit bilan des ressources qui pourraient se trouver. Par exemple, autour de Milan, de Vigan et jusqu'à Alès, il y a d'importants gisements de zinc. Autour de Montpellier, on pourrait avoir accès à des ressources d'aluminium, donc ce qui pourrait être intéressant à exploiter. Mais alors, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans nos sous-sols, il faut l'extraire. Et la réponse à cette seconde question est l'ouverture des mines en France. Alors, dans ce contexte de transition énergétique, le gouvernement français réfléchit à la possibilité d'ouvrir de nouvelles mines afin d'exploiter les ressources qui se trouvent dans nos sols. Alors, pourquoi c'est un débat? J'ai envie de dire très houleux. Pour pour mieux le comprendre, on va passer à la première écoute de l'interview.
Yes, bah on écoute cette première partie et on se retrouve juste après pour revenir un petit peu dessus.
C'est-à-dire qu'il y a une mémoire, un passé mis en France dont certaines personnes sont extrêmement fières et à juste titre parce que ça fait partie aussi de la culture de certains territoires.
C'est pas à Berg là ?
Ah bah non, c'est l'ancienne cité minière ici. Berg c'est plus loin par là. Ah bon.
Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter chacun votre tour ?
Alors moi je m'appelle Benoît Ildefonse, je suis chercheur au CNRS, géologue et je dirige le laboratoire qui s'appelle Géosciences Montpellier à l'Université de Montpellier.
Et bonjour, moi je suis Juliette Cerceau, je suis maître de conférence à IMT Minales en sociologie de l'environnement.
Donc déjà je voulais revenir un peu sur l'organisation de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom, pourquoi ce thème-là a été choisi ?
Nous étions ensemble aujourd'hui pour les journées de l'OSU-OREM. L'OSU-OREM, c'est un observatoire des sciences de l'univers. Et OREM, ça veut dire Observatoire de recherche montpelliérain de l'environnement. Alors la thématique de cette journée, c'était les géosciences, au sens large. Et cette thématique a été choisie parce que le ministère de l'Éducation nationale et le CNRS ont décidé d'un commun accord de porter cette thématique-là pour l'année académique. Et derrière ça, on encouragé les différents laboratoires de recherche à avoir des actions, notamment en termes de formation vers le grand public, mais aussi vers les enseignants du secondaire et du primaire. Donc, au cours de l'année, on va développer un certain nombre d'actions vers les collèges, les lycées notamment, des actions grand public. Et cette journée aujourd'hui était en partie consacrée à ça, avec dans l'après-midi une table ronde ouverte au public consacrée aux ressources minérales et aux enjeux derrière cette problématique de ressources minérales pour la transition énergétique, aux réflexions qu'on peut avoir sur ces questions-là de points de vue très différents scientifiques selon qu'on est géologue ou sociologue ou biologiste par exemple.
Donc cette table ronde fait suite aussi à des décisions politiques d'Emmanuel Macron de faire un recensement, un inventaire des ressources minières en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, c'est pas vraiment ma spécialité, mais effectivement, on a dans les différents grands programmes de recherche prioritaires mis en place par l'État en France, il y en a un qui s'appelle le PEPR sous-sol bien commun. Et dans le cadre des activités de ce PEPR, ou en tout cas en marge des activités de ce PEPR qui est en train de démarrer, où on va faire de la recherche pendant 7 ans sur différents aspects autour du sous-sol. Vient dans les priorités énoncées par Macron en 2023, me semble-t-il, cet inventaire de la ressource minière en France, ou du potentiel minier en France, plus exactement, je ne sais plus comment c'était formulé exactement par Macron, Juliette s'en souviendra peut-être. Il s'agit effectivement d'avoir une vision correcte de ce potentiel dans un contexte où la mine devient importante dans la manière dont notre monde évolue, dans la transition énergétique notamment qu'on essaye de mettre en place pour faire face à la décarbonation de nos sources énergétiques. Ce besoin en ressources minérales évolue aussi simplement par nos usages de nouvelles technologies. Nos téléphones que vous êtes en train de regarder à l'instant, par exemple, contient plus de 50 minéraux, métaux plus précisément. Et donc ces métaux, il faut bien les produire quelque part. Actuellement, on ne les produit plus en France, il n'y a plus de mines en France métropolitaine. Donc on les importe d'ailleurs. Donc ça pose des problèmes de souveraineté nationale, ça pose des problèmes de géopolitique, ça pose des problèmes de perception de la part des populations à différentes échelles, au niveau des territoires, en France ou ailleurs, sur les mines, parce que ces mines ont souvent eu et ont souvent encore un impact environnemental sur la ressource en eau et sur la biodiversité. Donc c'est ces différents points de vue qu'on voulait mettre autour d'une table aujourd'hui avec ce débat public.
Merci pour vos réponses déjà. Donc vous avez un peu cité les premiers enjeux. Donc on a aujourd'hui cette table ronde, on avait 5 chercheurs et chercheuses, donc de tous bords scientifiques, j'ai envie de dire. Avec nous, on a Juliette Cerceau, donc qui s'est présentée, qui est sociologue. Et justement, avec vous, je voulais revenir un peu sur les impacts au niveau social, donc d'une potentielle réouverture d'une mine. Donc que ce soit en France ou dans notre région, qu'est-ce que ça changerait sur un territoire ?
Alors, on a, pour répondre à cette question, on a l'expérience de territoires qui ont connu des activités minières par le passé, en France métropolitaine, bien sûr. Donc, on n'est pas complètement, on part pas de rien. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire, un passé minier en France, dont certaines personnes sont extrêmement fières et à juste titre, parce que ça fait partie aussi de la culture de certains territoires. Pour autant, reste derrière ces activités un certain nombre de passifs miniers en termes de pollution environnementale, de pollution sanitaire, avec des problématiques lourdes sur certains territoires qui sont vraiment très fortement contaminés. Donc c'est dans tout ça que cette question du renouveau minier s'insère au niveau de la France métropolitaine, dans un contexte, comme on le rappelait tout à l'heure, de géopolitique dont il faut prendre conscience aussi, c'est-à-dire que oui, si on veut mener à bien notre transition énergétique et notre transition numérique telle qu'elle est définie aujourd'hui, il faut extraire des minéraux. Donc ça, c'est le contexte général dans lequel s'insèrent aujourd'hui les projets extractifs, comme il peut y avoir le projet de mine de lithium dans l'Allier. Et donc dans ce cadre-là, souvent les débats se posent en termes d'acceptabilité sociale, comme s'il fallait faire accepter aux populations ignorantes des projets miniers nécessaires pour la souveraineté nationale. Et donc on a cette question de l'acceptabilité sociale qui vient complètement structurer la façon dont les gens vont se positionner par rapport au projet industriel. Et forcément, avec un durcissement des oppositions, il y a ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'essayer de renouveler le dialogue territorial autour de ces projets, en évitant de se crisper sur un pour ou contre cette mine ici et maintenant, et plutôt poser la question de la place qu'occupent les ressources minérales et leur extraction dans les futurs de nos territoires, dans nos projets de société, en se disant, en assumant aussi le fait qu'on peut encore se poser la question de est-ce que c'est cette transition énergétique qu'on souhaite collectivement, est-ce que c'est cette transition numérique à laquelle on aspire tous collectivement, ou est-ce que d'autres chemins sont encore envisageables.
Radio Campus Montpellier, 102.2.
Alors, on l'a bien compris, l'enjeu des ressources minières, c'est déjà un enjeu de souveraineté, puisque détenir, extraire et produire des ressources, ça permet d'être indépendant et donc de, évidemment, ne pas avoir à être dépendant de quelqu'un d'autre. Mais alors, hormis le cas de la France, comment ça se passe pour d'autres pays? Est-ce qu'on a déjà des exemples de pays qui ont réouvert certaines mines?
Par exemple, un pays voisin de la France, donc l'Allemagne, veut passer pour 2030 à une exploitation plus importante de charbon, et dans ce besoin pour retrouver justement sa souveraineté énergétique, puisque l'approvisionnement en gaz est devenu compliqué avec la guerre en Ukraine, pour répondre à la transition énergétique afin de répondre aux engagements des différents États lors des COP, engagements qui visent à réduire les gaz à effet de serre, l'État français doit également passer à des énergies dites renouvelables. Ces énergies renouvelables peuvent être la production d'électricité avec les infrastructures comme les barrages, les barrages hydroélectriques ou les éoliennes. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque les outils qui utilisent l'électricité, appelés aussi les outils de nouvelles technologies qu'on utilise tous les jours, nos téléphones, nos ordinateurs, sont produits à partir de métaux. Vous vous rappelez, en introduction, je disais que le gouvernement français veut produire en France, à l'horizon 2030, près de 2 millions de véhicules électriques. Et justement, dans cette production d'électricité, pour produire ces véhicules électriques, il y a une matière très importante qu'on importe aujourd'hui énormément, le lithium, qui est importé à 100% par l'État français et notamment en provenance de la Chine. Pour répondre un peu à cet besoin de souveraineté, la France crée une première mine qui est déjà en développement dans l'Allier et devrait entrer en production en 2028. D'autres gisements pourraient être suivre en Bretagne et dans les États et dans l'Est de la France. Donc on aurait plusieurs gisements de lithium qui pourraient être exploités d'ici 2030.
Mais du coup, au-delà des enjeux et de la nécessité potentielle de rouvrir des mines, qu'est-ce que ça peut entraîner l'exploitation des mines en France? Parce qu'on sait qu'il y a des sous-sols et on sait comment les exploiter, mais se pose quand même la question des impacts, que ce soit sur la terre ou sur les populations qui vivent à proximité. Ça pourrait être effectivement un vecteur de l'emploi, mais je suppose qu'il y a d'autres impacts à prendre en compte.
Oui, c'est une très bonne question également, Alex. Justement, les mines représentent un immense impact lié à la pollution. En effet, Corinne Cassio, qui est directrice de recherche au CNRS et experte des impacts environnementaux des métaux et de la pollution, qui était présente à la conférence, nous rappelle que les mines ouvertes il y a 60 ans en France polluent encore les sols et l'eau des territoires exploités, alors que certaines ont été ouvertes que durant 5 ans. Ainsi, c'est important de revenir sur certains chiffres. Dans le monde, selon Corinne Cassio, toujours, ce sont 23 millions de personnes qui portent plainte pour contamination par métaux. D'autre part, 500 km de rivières seraient contaminées par l'exploitation minière.
Et donc finalement, au-delà de la pollution qu'entraîne l'exploitation minière, est-ce que c'est pas un débat un petit peu plus large ? Qu'est-ce qui entre réellement en jeu dans ce débat-là ?
Selon moi, l'exploitation minière résonne dans une question plus globale de notre modèle économique, puisque la volonté d'exploiter les ressources minières est strictement liée à la volonté de continuer de consommer des produits de nouvelles technologies, pour acheter des nouveaux iPhones, pour acheter des nouveaux ordinateurs. Olivier Vidal, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste des ressources minières dans le contexte de la transition énergétique et qui était également à la conférence, nous explique durant la conférence que la consommation des objets de nouvelles technologies continuerait d'augmenter. Alors, pour répondre à ce besoin constant de consommation, il faut produire et pour produire, il faut extraire.
Et oui, c'est un sujet au final beaucoup plus global dans lequel on pourrait potentiellement remettre en cause le modèle économique. Mais pour nous éclairer un petit peu plus sur tout ça, on va écouter la deuxième partie du reportage et on se retrouve juste après.
Je voulais revenir justement sur cette question de la transition. Donc je trouve que Jérôme Corté a abordé cette question avec plus de précision, c'est-à-dire quand on parle de transition verte, et il faut un peu enlever forcément du jargon le vert, parce qu'on a toujours l'impression que c'est une énergie propre qu'on amène, mais que cette transition donc de métaux, de fossiles, d'énergie non renouvelable à des énergies renouvelables qui passeraient donc de l'essence aux métaux, n'est pas forcément verte et peut entraîner énormément de coûts de pollution. Donc est-ce que pour vous c'est aussi... on va dire amener le dialogue, c'est aussi amener des informations sur différentes représentations de qu'est-ce que ça va être la transition, qu'est-ce que va être cette transition.
C'est vrai que les mots ont une importance très forte, c'est-à-dire que aujourd'hui on est complètement imprégné de ce vocable autour de la transition écologique, énergétique, numérique, dont on a l'impression qu'elle est complètement dématérialisée, virtuelle. Donc le propos de cette table ronde, c'était justement de rematérialiser absolument les débats, c'est-à-dire que tout ça repose sur de l'extraction de métaux qui a des conséquences environnementales importantes. Donc ça, c'est un premier aspect. Après, sur le terme de transition même, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de penseurs qui aujourd'hui critiquent ce terme dans la façon dont ça peut nous rendre aveugles de certaines choses. C'est-à-dire qu'une transition, ça veut dire qu'il y a un avant et un après. Or, on ne parle jamais de ce monde d'après. C'est-à-dire, on va vers quoi ? Cette question-là est très peu abordée. On sait qu'on fait une transition, mais on ne sait pas trop pourquoi. On sait qu'il y a ces enjeux de changement climatique. On sait qu'il faut transformer notre modèle de société. Mais aujourd'hui, on ne pose pas vraiment les choses. Donc cette transition, c'est quelque chose comme une espèce de quelque chose qui s'étire en plus dans le temps et dont on ne voit plus tellement la fin, l'après. Transition. Et qu'en plus, comme on a pu le rappeler, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est du fait d'une demande exponentielle en énergie, en matériaux, en fait, les transitions énergétiques ne viennent que se rajouter à la consommation d'énergie fossile qui, elle, de toute manière, croît aussi exponentiellement. Donc, on n'a pas encore fait de transition à proprement parler. Et penser qu'on est en transition, c'est aussi se leurrer sur vraiment qu'est-ce qui se passe aujourd'hui.
Donc on a parlé de territoire avec l'ouverture des nouvelles mines, justement de peut-être du dialogue que ça entraînerait avec les populations qui en souffrent. Avec vous, je voulais revenir aussi sur les enjeux d'échelle et avec ça aussi les critiques du modèle capitaliste, parce qu'aujourd'hui on sait que l'externalisation des ressources, de la pollution se fait dans les pays du Sud notamment, donc qu'il y a des enjeux nord-sud. Est-ce que pour vous, une réelle transition, ça serait un re-questionnement du modèle capitaliste? Au fond, est-ce que ça serait pas ça, la vraie transition?
Moi, mon métier, c'est d'essayer de permettre aux acteurs de territoire, mais aussi aux étudiants, parce que je suis enseignante aussi, à essayer de sortir des cadres, c'est-à-dire d'essayer de dépasser les modèles qu'on nous propose aujourd'hui. Et pour ce faire, j'utilise plusieurs outils, et notamment les approches art-science, c'est-à-dire de mixer des approches artistiques, de recherche artistique et de recherche scientifique, pour essayer de décloisonner, d'être plus créatif et d'essayer de se sortir de ces modèles de transition qu'on nous propose aujourd'hui, qui ne sont pas fondamentalement des mauvais modèles, mais qui, comme tout modèle, ont des limites, pour se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de transition envisageables. Mon métier, il est vraiment celui-là, c'est d'essayer de favoriser la créativité et les imaginaires autour de ces futurs que l'on pourrait souhaiter et qui ne seront peut-être pas tous des futurs transition énergétique ou complètement transition numérique ou que sais-je.
Donc je voulais aussi avoir l'avis de Olivier Vidal, qui a un avis un peu contraire au vôtre, j'ai l'impression. Contraire, je ne sais pas, mais en tout cas, quand il s'exprimait, on avait plus l'impression qu'il encourageait un modèle d'investissement et d'économie viable. C'est-à-dire, par exemple, quand il a parlé de la réouverture des mines, pour lui, c'était un facteur, quoi. Le seul facteur qui comptait réellement, c'était le facteur financier. Donc, c'est-à-dire savoir si une mine coûte est rentable ou non. Donc c'est toujours se poser la question d'une manière très économiste, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes du même avis que lui ?
Moi, je pense que la grande différence entre lui et moi, c'est que lui est pragmatique, et il en faut. Moi, je suis peut-être un petit peu plus philosophe et utopiste dans ma façon de conduire ma recherche, mais il n'y a pas de vrai ou de faux. C'est juste différentes façons de mettre en récit ces transitions. Moi, ce sur quoi je travaille, c'est vraiment sur cette mise en récit, les différentes formes qu'elle peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous propose une certaine mise en récit qui passe par une croissance économique qui est maintenue, par un modèle économique qui est celui dans lequel on est aujourd'hui, avec ces outils que sont la transition énergétique et la digitalisation, la décarbonation, l'électrification. C'est aujourd'hui cette mise en récit qu'on nous propose. D'autres mises en récit sont possibles. De la même façon que la mise en récit du progrès, du développement, tout ça, ça participe d'un chemin de société qui est intéressant de questionner pour envisager des alternatives.
Si je peux permettre de compléter la réponse, je ne pense pas qu'il y ait de vraie opposition, en l'occurrence, entre Olivier et Juliette, ou entre les géologues et les sociologues, pour le dire plus généralement. Olivier exprimait là-dessus un état de fait, c'est pas une opinion de sa part, c'est que dans la manière dont fonctionne notre société aujourd'hui, effectivement, le paramètre qui va déclencher le fait que l'extraction de tel ou tel métal ou minerai à tel ou tel endroit devient faisable ou pas, c'est l'économie. C'est une réalité factuelle sur notre monde d'aujourd'hui. Ça ne dit rien sur l'opinion personnelle d'Olivier en tant que citoyen sur la question. Et je pense qu'il exprimait là simplement un état de fait sur la manière dont fonctionne notre société aujourd'hui. Et ce que le message de Juliette, en l'occurrence, pendant la table ronde, était de dire peut-être qu'il y a des manières différentes de travailler avec les différents acteurs pour penser autrement le futur. Si on ne se pose pas la question de comment on pense le futur, on se pose mal la question de à quoi sert cette transition énergétique, ou plus généralement à quoi servent nos innovations technologiques diverses et variées qui font qu'on a besoin de ces métaux. En l'occurrence, Olivier a cité le cas de Starlink à la fin, en nous disant que voilà, on met en place un truc. Personne proteste sur le fait qu'il veut pas du Starlink. Pourtant, on n'a pas fondamentalement besoin de la constellation satellite Starlink qui est redondante, qui va refaire des choses qu'on sait déjà faire avec d'autres technologies. Ça correspond au rêve un petit peu mégalomaniaque d'un industriel américain, mais on n'a pas fondamentalement besoin de ça. Ça, c'était une opinion, là, pour le coup, qu'il donnait, au-delà même du factuel. Et voilà, typiquement, le genre de questions qu'on doit se poser. A-t-on vraiment besoin de faire ça ? Non, on n'a pas besoin. Pourtant, on est en train de dépenser du pognon, de l'énergie, des minéraux, et de produire du carbone pour envoyer ces satellites dans l'atmosphère. Donc voilà, un vrai problème qu'on aurait pu se poser avant de le faire.
Vous écoutez Radio Campus Montpellier 102.2.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier. C'est, alors malheureusement, c'est déjà la fin de ce peak time et on va conclure tranquillement. En tout cas, un grand merci à l'OREM pour leur accueil et aux différents chercheurs et chercheuses qui ont pris le temps de répondre à tes questions, Antonin. En tout cas, on espère que c'est un sujet qui aura pu vous intéresser, vous rendre curieux ou curieuse et peut-être qu'il vous aura appris deux, trois choses. En tout cas, je ne sais pas toi, Antonin, mais... moi, j'ai découvert quand même quelques petites choses sur ce reportage et cette conférence. Et c'est un sujet, je trouve, qui est assez essentiel, assez central aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet qui est très large, très complexe et on n'a pas eu le temps d'aborder en détail tous les aspects de la question. Mais donc, on aura l'occasion de refaire sûrement un sujet sur ça, non ?
Et moi, j'ai beaucoup appris, en effet, en faisant ce reportage, j'ai appris plein de trucs. Et c'est des trucs qui sont vraiment dans le débat aujourd'hui, comment on fait cette transition énergétique. Et sur cette Radio Campus, j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder plein d'autres reportages et de vous donner un maximum d'informations sur les choses un peu d'actualité.
Ouais, carrément, puis c'est le genre de sujet en plus qui concerne absolument tout le monde. Je pense qu'on a tous plus ou moins un avis qui vaut le coup d'être entendu sur la question, que ce soit sur la réouverture des mines ou même sur des questions de modèle économique. C'est des choses qui concernent chacun et chacune. Mais on aura l'occasion d'en reparler, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais évidemment, c'est pas la fin de la journée sur Radio Campus Montpellier, puisque au programme, on aura à 18h Vinyl Mania, à 19h ce sera Symbiosis Live, et à 21h on clôturera avec Roger Moore at 50. Évidemment, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission et puis toutes les autres émissions de Radio Campus sur le site internet de la radio. Et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour avoir toutes nos actualités. On va se quitter en musique, histoire de partir sur une petite note positive. Tu nous as proposé un morceau de Aurel San qui s'appelle « Baise le monde », c'est bien ça ?
Exactement, sur les enjeux environnementaux. Donc on va passer tranquillement à l'écoute. Et yes. Puis merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton peak time, Alex. Ce fut un plaisir.
Merci à toi pour ta chronique et ton reportage qui était hyper intéressant. Et évidemment, merci à Clémentine d'avoir assuré en régie. Et puis voilà, on se quitte sur « Baise le monde » de Aurel San et on se retrouve très vite sur les ondes de Radio Campus. Ciao, ciao.
Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais perception. Marcherons en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nanananana. J'ai pas fait toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Et whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie, influence les petites pour vendre des cosmétiques. J'pensais jamais rentrer dans des soirées select. Open bar, j'me sers un toast avec une grosse crevette, pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nanananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survette. J'ai même pas enlevé l'étiquette.
Wow, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi survette? Il sort 12 survêtes.
Un indien payé 2 euros par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame.
direction la Roumanie, yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qu'on paye une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme, même ça valait pas la peine. Nouveau survêt, tu sur mon 31. C'est pas le 31, juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers le ciel. Baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Nanana.